Murray Elizabeth Braddon, Aurora Floyd, tome 2, chapitre 1. Il dit seulement « Je m'ennuie ». M. James Conyers trouvait que les longues journées d'été étaient lourdes et pesantes à Mellish Park, dans la société de l'ex-entraîneur goûteux, des garçons d'écurie et de Steve Hargreaves l'idiot, et sans aucune autre ressource littéraire que le dernier numéro du Bell's Life et quelques feuilles de papier fin, brillant et glacé, qu'on lui envoyait par la poste de King Charles Croft dans la bruyante ville de Leeds. Il aurait pu trouver assez d'occupation dans les écuries s'il en avait eu l'envie. Mais après la nuit de l'orange, il y avait eu un changement notable dans ses façons d'agir, et l'étalage qu'il avait fait en paraissant fort occupé lors de son arrivée au parc s'était transformé en un laisser-aller qu'il ne déguisait d'aucune manière et en une complète indifférence, ce qui faisait secouer la tête grise du vieil éleveur et lui faisait dire à ses subordonnés que le nouveau venu était évidemment trop fier et trop grand pour sa besogne. M. James se souciait peu de l'opinion des gens du Yorkshire. Il leur baillait au nez et les suffoquait avec la fumée de son cigare, avec une indifférence flagrante qui s'alliait bien avec les couleurs splendides de son teint et l'éclat de ses yeux alanguis. Il avait pris la peine d'essayer de se rendre populaire le lendemain de son arrivée et avait distribué des tapes sur les épaules de ses inférieurs d'une façon toute cordiale. Il avait serré les mains des uns et des autres de façon à se faire aimer des honnêtes paysans qui étaient ensorcelés par son charmant visage et ses grandes manières. Mais, après son entrevue avec Mistress Mellish dans le cottage du Nord, il sembla abandonner tout désir de plaire et devenir tout à coup mécontent et ennuyé, si ennuyé et si mécontent qu'il se sentit même porté à se disputer avec le malheureux idiot et à rendre la vie dure à son serviteur aux cheveux rouges par ses caprices et ses fantaisies. Stephen Hargreaves supportait ce changement dans les manières de son maître avec une patience étonnante. Peut-être avec trop de mansuétude, avec cette lente et sourde tranquillité particulière à ceux qui gardent quelque chose en réserve, qui cherchent, plutôt qu'ils n'évitent une injure, se réjouissant de ceux qui viennent enfler le compte général pour être répartis en orage et en fureur dans l'avenir. L'idiot était un homme qui pouvait amasser sa haine et sa vengeance, cacher ses mauvaises passions dans les sombres replis de son pauvre esprit et les en faire sortir dans l'ombre de la nuit pour les caresser et leur parler, comme la femme du mort embrassait la bâtisse brodée de pourpre et causait avec elle. Il y avait sûrement bien peu de sociétés à Chypre, sans cela Mistress Othello n'en eût point été réduite à une compagnie si insipide. Quoi qu'il en soit, Steve supportait l'insouciante insolence de M. Conyers avec une douceur telle que l'entraîneur riait de son pauvre serviteur et le considérait comme un lévrier sans intelligence dont un regard de brillants yeux noirs ou une petite cravache de femme démontait le peu d'esprit qui restait dans un cerveau troublé. Il toucha deux mots dans ce sens à Steve, un jour qui lui avait été désagréable pendant une longue journée d'été énervante, et l'idiot s'en alla en laissant échapper un ricanement qui ressemblait à un éclat de joie sauvage en recevant ce compliment. Il fut plus obséquieux que jamais et paraissait très reconnaissant pour les bouts de cigare que l'entraîneur lui accordait généreusement. Il se rendait à Doncaster pour chercher de nouveaux cigares et de nouvelles liqueurs dans la journée et rapportait le tout aussi servilement que le chien auquel son maître l'avait si poliment comparé. Monsieur Conyers ne fit même pas mine d'aller regarder les chevaux dans ce mémorable jour du 5 juillet, mais il s'appuya sur la balustrade de la croisée, sa jambe boiteuse étendue sur une chaise et le dos appuyé sur la boiserie d'un petit châssis, fumant, buvant, lisant et reluisant ses listes de courses toute la journée. L'eau-de-vie et l'eau froide qu'il se versait toutes les demi-heures sans interruption et qui glissait dans son charmant gosier semblait avoir moins d'influence sur lui que n'aurait produit la même quantité sur un cheval. Cette quantité aurait pu déranger le cheval, c'est vrai, mais elle n'exerçait aucune action sur l'entraîneur. Mistress Powell, se promenant pour sa santé sous les futaies du Nord, courant par cela même l'imminent danger d'attraper un coup de soleil, affecta de passer et de repasser devant la loge et de regarder M. Conyers, étendu, sombre et magnifique, dans l'embrasure de la croisée, exhibant la silhouette de sa charmante personne, encadrée dans l'épais feuillage qui pendait le long des murs du cottage. Elle était un peu gênée par la présence de l'idiot qui balayait le seuil de la porte et qui lui lança un regard de connivence lorsqu'elle passa, un coup d'œil qui pouvait signifier « Nous connaissons ses secrets, vous et moi, tout beau et tout insolent qu'il puisse être. Nous connaissons le prix modique pour lequel il peut être acheté et vendu. Mais nous gardons notre secret. Nous gardons notre secret jusqu'à ce que le temps mûrisse le fruit sur l'arbre, quoique nos doigts nous démangent pour le cueillir pendant qu'il est encore vert. » Mistress Powell s'arrêta pour souhaiter le bonjour à M. Conyers et exprimer une surprise aussi grande de le voir dans le cottage du Nord que si elle eût appris qu'il voyageait dans le Kamchatka. Mais M. Conyers mit fin à ses salutations par un bâillement et lui dit avec une certaine familiarité qu'elle lui rendrait service en lui envoyant le Times du matin aussitôt que ce journal quotidien arriverait au parc. La veuve était trop sous l'influence de l'impertinence gracieuse de ses manières pour s'y refuser, comme elle eût pu le faire, et elle retourna à la maison, déroutée et étonnée, pour satisfaire à sa demande. Donc, par l'excessive chaleur d'une journée d'été, M. Conyers fumait, buvait et prenait ses aises, tandis que son serviteur et son subordonné l'épiaient d'un air embarrassé, se rappelant vaguement et confusément, dans sa triste et pauvre cervelle, les événements de la soirée précédente. Mais M. James Conyers se fatigua même de ce farniente et de ce repos continu qui fit que Rasselas se lassa de son heureux vallon et qu'il rechercha les âpres brises des cimes des montagnes et les clameurs des cités lointaines. L'ennui qui s'éleva dans le sein de l'entraîneur devint si grand qu'il commença à rechercher la solitude champêtre de l'habitation du Nord et qu'il promena sa pauvre jambe estropiée d'une position dans une autre avec un vif mécontentement d'esprit qui, par un de ces nombreux et subtils chaînons qui relient l'esprit à la matière et nous disent que nous sommes mortels, se communiqua à son corps et lui occasionna cette maladie chronique qui est vulgairement appelée impatience nerveuse, une fièvre continue engendrée parmi les fibres du cerveau qui trouve son issue par ce télégraphe physiologique, la moelle épinière, et se rend jusqu'aux stations les plus éloignées du chemin de fer humain. M. James souffrait tellement de ce malaise vulgaire que, lorsque les sons de l'horloge de l'église vibrèrent harmonieusement au-dessus de la cime des arbres de Mellish Park, dans la tiède atmosphère de la soirée, il jeta sa pipe avec un haussement d'épaule rempli d'impatience et il appela Hargrave pour lui donner l'ordre de lui apporter son chapeau et sa canne. « 7 heures, murmura-t-il, seulement 7 heures. Je crois qu'il a dû y avoir 24 heures dans cette journée endiablée. » Il resta à regarder par la fenêtre de la petite habitation avec un air mécontent qui contractait ses jolis sourcils et une expression chagrine qui desserrait ses lèvres pendant qu'il prononçait ces mots. Il parcourut le petit réduit du regard, réduit qui était plus étroit à cause de son encadrement de roses et de clématites, de jasmin et de myrte, et ressemblait au sabord d'un navire voguant sur une mer de verdure. Il parcourait du regard, à travers l'ouverture circulaire formée par les guirlandes de feuilles et de fleurs, les longues clairières dans lesquelles la lumière du soleil miroitait dans les branches onduleuses de la fougère. Il suivait de l'œil les sentiers sinueux du petit bois jusqu'à ce qu'ils eussent conduit ses yeux fatigués vers des nappes d'eau bleue qui se transformaient peu à peu en opale et en rose avec le déclin de la lumière. Il voyait toutes ces choses avec une apathie qui n'avait pas le pouvoir de lui faire reconnaître leur beauté, ni de lui inspirer le plus petit atome de reconnaissance pour celui qui les avait faites. Il eût mieux valu qu'il eût été aveugle. Il tourna le dos au soleil couchant et regarda la figure blême de Steve Hargreaves avec le même sentiment, avec le même plaisir qu'il avait ressenti en contemplant l'aspect enchanteur de la nature. « Une journée bien longue, dit-il, une journée horriblement ennuyeuse et fatigante. La voilà terminée, Dieu merci. » Ce qu'il y a d'étonnant, c'est que, pendant qu'il formulait ce remerciement impie, aucun secret avertissement de l'avenir ne parcourut ses veines pour glacer les battements de son cœur, pour geler ses paroles sacrilèges sur ses lèvres. S'il eût su ce qui devait arriver si promptement, s'il l'eût su en remerciant Dieu de la fin de cette belle journée d'été, qui ne pouvait jamais revenir avec ses 12 heures propices pour le bien ou le mal, certes, il se fut roulé par terre, frappé de terreur subite, et il eût pleuré tout haut pour la honteuse histoire de sa vie qu'il laissait derrière lui. Il n'avait jamais répandu de larmes qu'une seule fois depuis son enfance, et encore, ces larmes étaient-elles des gouttes brûlantes de rage et de honte, de fureur et de vengeance, pour l'anéantissement du plus grand projet de sa vie. « J'irai à Doncastre ce soir, Hargreaves, » dit-il à l'idiot, qui attendait avec respect le bon plaisir de son maître, et le surveillait comme il l'avait surveillé toute la journée, à la dérobée, mais continuellement. « Je passerai la soirée à Doncastre, et je verrai si je puis recueillir quelque chose sur les courses de septembre. Non qu'il y ait quelque chose qui en vaille la peine parmi ce tas de je ne sais qui. » Puis il ajouta, avec un mépris non déguisé pour les écuries si chères du pauvre John, « Y a-t-il ici une voiture, une carriole quelconque, que je puisse conduire ?» Hargreaves répondit qu'il y avait une Victoria qui était réservée pour M. John Mellish et un gig à la disposition des domestiques supérieurs lorsqu'ils voulaient aller à Doncastre, ainsi qu'un char à banc couvert que les garçons emmenaient à la ville tous les jours pour les provisions nécessaires à la maison. « Très bien, » répondit M. Conyers, « courez aux écuries et dites à l'un des garçons d'atteler le meilleur poney à la Victoria, de l'amener ici et de marcher droit. » Mais personne autre que M. Mellish ne se sert de cette voiture, hasarda l'idiot avec un accent de frayeur. « Qu'est-ce que c'est, chien de poltron ?» s'écria l'entraîneur d'un ton de mépris. « Je m'en servirai ce soir, entends-tu ? Le diable emporte son insolence. Dois-je être humilié par lui ? C'est sa charmante femme qui le rend si orgueilleux, n'est-ce pas ? Que le diable ! À qui appartenait l'argent qui a servi à acheter le char à banc ? À Aurora Floyd, sans doute. Et je ne dois point m'en servir parce que c'est le plaisir de mon seigneur de promener sa dame dans cette voiture sacrée. Écoute ici, idiot sans cervelle, et comprends-moi si c'est possible. » S'écria M. James Conyers dans un soudain état d'exaspération qui empourpra sa jolie figure et illumina ses yeux indolents d'un feu nouveau. « Écoute ici, Stephen Hargreaves, si ce n'était que j'ai pieds et poings liés, et si je n'avais été dupe de la ruse d'une femme, je pourrais fumer ma pipe dans cette propriété et dans une plus belle encore aujourd'hui. » Il désignait du doigt le toit à pignon et les croisées éclairées par le soleil couchant que l'on apercevait au loin entre les arbres. « Monsieur John Mellish, » dit-il, « si sa femme n'était pas une diablesse capable d'en revendre à l'homme le plus habile de la chrétienté, je ne serais pas long à le faire chanter autrement. « Va chercher la voiture, » cria-t-il tout à coup en changeant de ton, « va la chercher et vitement. J'ai peine à me contenir quand je parle de tout ceci. » J'ai peine à me maîtriser quand je pense que j'ai été si près d'avoir un demi-million, » murmura-t-il entre ses dents. Il sortit au grand air, s'éventant avec les bords de son large chapeau d'été et essuyant la sueur de son front. « Dépêche-toi » cria-t-il avec colère en s'adressant à son serviteur indécis qui avait entendu toutes les paroles de la conversation animée de son maître et qui, à présent même, le surveillait avec plus d'attention qu'auparavant. « Dépêche-toi, animal, te dis-je, je ne te donne point 5 shillings par semaine pour me regarder. Amène la voiture, je me suis donné la fièvre et il n'y a qu'une course qui puisse me remettre à présent. » L'idiot s'échappa de toute la vitesse de ses jambes. On ne l'avait jamais vu courir de sa vie. Bien au contraire, il avait une allure lente et oblique qui ressemblait plutôt à la marche d'un reptile qu'à celle ordinaire de ses semblables. M. James Conyers arpentait de long en large la petite pelouse qui se trouvait en face de la loge du Nord. La colère qui avait empourpré son visage subsistait et il exhalait son impatience en exclamations furieuses. « 2000 livres, murmurait-il, quel pauvre denier ! 2000, pas même l'intérêt d'une année de l'argent que j'aurais dû avoir, argent que j'aurais eu si... » Il s'arrêta subitement et murmura comme un juron entre ses dents, tout en hachant le gazon du bout de sa canne avec une colère visible. « Il est dur, lorsque nous repassons notre mauvaise chance et que nous nous disputons avec notre destin, de nous apercevoir, en remontant à la source, que la cause première de cette mauvaise chance provient de notre faute. » C'est ce motif qui fit que M. Conyers s'arrêta à réfléchir sur son infortune et proféra un juron. C'est pourquoi il écoutait avec impatience s'il n'entendait point le bruit des roues de la voiture. L'idiot parut enfin, conduisant le cheval par la bride. Il n'avait pas osé monter dans le véhicule sacré et il considérait avec étonnement James Conyer qui retournait les coussins de drap marron et les arrangeait pour ses aises et son bien-être. Ni le brillant vernis brun des panneaux, ni la couronne cramoisie, ni les ornements reluisants des harnais, ni les accessoires si habilement finis du léger véhicule ne provoquèrent un mot d'admiration de la part de M. Conyers. Il monta avec autant de légèreté que le lui permettait sa jambe boiteuse et, prenant les rênes des mains de Steve, il alluma son cigare avant de partir. « Tu n'as pas besoin de m'attendre ce soir, » dit-il en roulant sur la route poudreuse. « Je rentrerai tard. » Hargreaves ferma bruyamment la grille de fer derrière son nouveau maître. « C'est ce que je ferai cependant, » murmura-t-il, en regardant entre les barreaux la voiture qui ne paraissait plus que comme un point noir dans un blanc nuage de poussière. « Je veillerai quand même. Vous rentrerez ivre, je parie. » Le Yorkshire est tellement un pays de course et de paris qu'un simple paysan, qui n'a jamais risqué suspense dans tout le cours de sa paisible existence, dit « Je parie » quand un habitant de Londres dit « Je pense ». « Vous rentrerez ivre, je parie. On revient généralement dans cet état de Doncastre et j'entendrai encore quelque chose de votre conversation décousue. »« Oui, oui, » dit-il d'un ton lent et réfléchi, « c'est une conversation bien décousue et bien vague. Je n'en puis encore comprendre ni queue ni tête, pas encore. Je crois bien comprendre tout, mais je ne puis rassembler cela ensemble. Il y a quelque chose qui manque et ce quelque chose m'empêche de rassembler le tout. » Il frotta sa tête garnie de rudes cheveux roux avec ses deux grosses mains maladroites, comme s'il eût voulu forcer un peu d'intelligence à entrer dans son cerveau. « 2000 livres, répétait-il en retournant au cottage. 2000 livres, c'est une forte somme, mais c'est 2000 livres que le gagnant ramasse à la grande course de Newmarket, et tous les nobles sont prêts à donner leurs oreilles pour cette somme. » Des grands seigneurs se battent et se déchirent pour 2000 livres et il n'est donc pas étonnant qu'un pauvre diable comme moi y pense aussi un peu. Il s'assit sur le pas de la porte de la loge pour fumer les bouts de cigare que son bienfaiteur lui avait jetés dans le courant de la journée. Mais il réfléchissait toujours sur le même sujet et s'arrêtait quelquefois lors de l'extinction de son bout de cigare et avant d'en allumer un autre pour murmurer « 2000 livres, 20 fois 100 livres, 40 fois 50 livres. Avec un geste rempli d'onction, après l'énonciation de cette somme, comme si c'eût été même un privilège de penser et de parler d'une pareille somme d'argent, et tout comme pourrait faire un amoureux en l'absence de son idole, en murmurant à la brise d'été le nom qu'il adore. Les dernières lignes rougeâtres se fondirent dans le bleu des eaux, enveloppées par les ombres. Mais l'idiot resta assis, continuant à fumer et à réfléchir, jusqu'à ce que les étoiles se montrassent au firmament au-dessus de sa tête. Un peu après 10 heures, il entendit un bruit de roues et des pas de chevaux sur la grande route et, allant à la grille, il regarda entre les barreaux. Comme la voiture entrait avec vitesse par la porte du nord, il s'aperçut que c'était une des voitures de Mellish Park que l'on avait envoyée à la station au-devant de John et de sa femme. « Une visite bien courte à Londres, » murmura-t-il. « Je parie qu'elle a été chercher l'argent. » Les yeux avides du groom brillaient entre les barres de fer lors du passage de la voiture, comme s'il eût voulu traverser de son regard les massifs panneaux pour y découvrir ce qu'il venait d'appeler l'argent. Il se figurait que 2000 livres faisaient un énorme tas d'argent et qu'Aurora l'avait apporté dans un coffre ou dans un paquet qu'il pourrait apercevoir par la portière. « Je parierai qu'elle est allée chercher l'argent, » répéta-t-il en regagnant la porte de la loge. Il se rassit sur le seuil de la porte, il reprit ses bouts de cigare et ses réflexions, se frottant souvent la tête, quelquefois avec une main, quelquefois avec les deux, comme pour forcer à y entrer un sens qui manquait à sa pauvre cervelle. Quelquefois, il soupirait de fatigue, comme s'il eût été tout le temps occupé à deviner une énigme difficile, et qu'il eût été sur le point d'y renoncer. Ce fut longtemps après minuit que M. James Conyers rentra, assez abîmé par l'eau-de-vie et la poussière. Il culbuta par-dessus l'idiot, qui était encore assis à la porte, puis jura après Hargreaves parce qu'il se trouvait sur son chemin. « Infernal vatmeral kring !» dit M. Conyers, parlant une langue entièrement composée de consonnes. « Ce n'est pas longue !» Par ce discours un peu obscur, il donnait à entendre à l'idiot qu'il venait ramener sans retard la voiture dans les écuries de M. Mellish. Steve Hargraves obéit aux ordres de son maître et, conduisant le cheval à son écurie, au milieu du calme de la nuit, il rencontra un garçon de fort mauvaise humeur, une lanterne à la main, attendant à la porte de l'écurie et peu disposé à causer, si ce n'est pour faire cette remarque qu'il espérait bien que le nouvel entraîneur n'allait point jouer à ce jeu toutes les nuits et qu'il espérait aussi que la jument que l'on élevait pour les courses n'avait pas été maltraitée. Tous les cheveux de John Mellish paraissaient avoir été élevés pour les courses et avoir perdu graduellement l'espoir d'être les vainqueurs du Derby, des Oaks, de la Chester Cup, du Great Ebor, des Yorkshire Skates, du Saint-Léger et de la Doncaster Cup, sans parler des plus minimes rencontres telles que Northumberland Place, Liverpool Autumn Cup et Coura Gandy Cup, où ils n'avaient eu que défaites et mécomptes à leur honte journalière. Il n'y avait pas jusqu'au chariot qui allait chercher les provisions d'épicerie qui ne fût traîné par un animal aux jambes minces, étroit de poitrine et haut d'épaule, appelé Yorkshire Childer, et acheté tout jeune un prix très élevé par le pauvre John. M. Conyers ronflait dans sa petite chambre à coucher lorsque Steve Hargraves revint à la loge. L'idiot examina curieusement ce beau visage abruti par la boisson et cette tête élégante posée sur l'oreiller chiffonné dans une de ces affreuses positions que l'ivresse choisit toujours pour se reposer. Steve se frotta la tête plus fort que jamais, tout en regardant le profil régulier de son maître, ses lèvres rouges à demi entr'ouvertes, la bordure de ses cils noirs se détachant sur ses joues empourprées. « Peut-être aurais-je pu être bon à quelque chose si j'avais été comme vous, » dit-il d'un ton de sauvage mélancolie. « Je n'aurais pas été honteux de moi-même, je ne me serais pas caché dans des coins obscurs. Et penser que je ne suis point comme tout le monde, quelle affreuse honte de n'être point comme eux. Si je l'avais été, je n'aurais pas eu de motif pour me cacher des autres jeunes gens. » Personne ne m'aurait dit de me déranger du chemin comme un vilain chien, ainsi que vous me l'avez dit ce matin. Soyez maudits, la vie est douce pour vous. » Caliban dut regarder ainsi Prospero, le cœur gonflé de haine et d'envie, avant de retourner à son infime besogne, de laver la vaisselle et de récurer les plats. Hargraves montra le poing au dormeur lorsqu'il eut fini de parler, puis se baissa pour ramasser les effets de l'entraîneur, maculé par la poussière et épars sur le plancher. « Je suppose qu'il va me falloir brosser ceci avant de me coucher, » murmura-t-il, « afin que mon seigneur trouve le tout prêt lorsqu'il se réveillera demain matin. » Il prit les vêtements sur son bras et la lumière dans sa main, puis descendit dans la chambre d'en bas où il trouva une brosse et se mit à l'ouvrage avec activité, s'entourant d'un nuage de poussière comme un de ces horribles génies arabes sur le point de se transformer en un prince charmant. Il s'arrêta tout à coup de brosser et chiffonna le gilet entre ses mains. « Il y a un papier !» s'écria-t-il, « un papier cousu entre étoffe et doublure !» Il omit l'article devant chacun de ses substantifs, comme c'est l'habitude de ces paysans lorsqu'ils sont émus. « Un bout de papier, » répéta-t-il, « entre étoffe et doublure. Je vais découdre le gilet et voir ce que c'est. » Il tira son couteau de sa poche, décousit avec soin une portion de la couture du gilet et en tira un morceau de papier plié en double, d'une grandeur raisonnable, assez épais, en partie imprimé, en partie écrit. Il s'appuya près de la lumière, ses coudes sur la table, et lut le contenu de ce papier lentement et laborieusement, suivant chaque mot avec son doigt épais, quelquefois s'arrêtant très longtemps sur une syllabe, quelquefois relisant une demi-ligne ou environ, mais suivant continuellement les mots avec son doigt. Lorsqu'il fut parvenu au dernier mot, il partit d'un grand éclat de rire, comme s'il venait de deviner une énigme fort difficile et qu'il avait tracassé toute la soirée. « Je sais tout maintenant, » dit-il, « je puis tout rassembler à présent, ses paroles et les siennes et l'argent. Je puis tout rassembler et tout comprendre. Elle va lui donner les 2000 livres pour qu'il s'en aille et ne parle rien de tout ceci. » Il replia le papier, le replaça avec soin dans sa cachette entre l'étoffe et la doublure du gilet, puis fouilla dans sa vaste poche, en retira un portefeuille en cuir horriblement gras, dans lequel, parmi toutes sortes de fatras, se trouvaient des aiguilles et un écheveau de fil noir embrouillé. Alors, se baissant au-dessus de la lumière, il se mit à coudre tranquillement la couture qu'il avait ouverte, avec assez d'adresse et de propreté en dépit de l'air gauche de son énorme personne.